9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
C'est une sommité que nous recevons ce matin, un découvreur de bactéries, spécialiste mondialement reconnu des maladies tropicales. Le professeur Didier Raoult est devenu la figure médicale française, voire mondiale, de l'épidémie de Covid. Emmanuel Macron l'a présenté comme un grand scientifique. Son nom et son travail ont été cités et célébrés par les présidents Donald Trump et Bolsonaro au Brésil. À son corps défendant, le professeur est devenu l'égérie des antisystèmes, dont le portrait était même brandi dans certaines manifestations contre les mesures de restriction. Et puis, son image a aussi été écornée, il a reçu plusieurs blâmes de ses pairs. Certains l'ont accusé d'être, je cite, un charlatan, notamment en raison de ses prises de position au sujet du traitement à l'hydroxychloroquine. Didier Raoult, c'est aussi un personnage unique, avec ses longs cheveux, sa bague à tête de bord, l'eau qui tranche, c'est le moins qu'on puisse dire avec la profession médicale. Mais c'est aussi un personnage médiatique qui, non seulement convoque les chaînes d'infos continues dans son bureau à Marseille, plutôt que se déplacer dans leur studio parisien, et qui n'hésite pas, j'arrive à le dire, à rabrouer certains journalistes. Justement, c'est le rapport aux médias de cette figure désormais planétaire qui nous a passionnés. Il publie un ouvrage dense, comme un récit au jour le jour. Le volume 2 de ses carnets de guerre Covid-19, c'est publié chez Michel Lafon, livre dans lequel il parle beaucoup de vaccins, de virus et de médecine, sujets pour lesquels nous n'avons ici aucune compétence, mais également de la médiatisation de son travail. Son rapport à la presse, à la télévision en particulier, et aux réseaux sociaux, c'est ce qui nous intéresse ce matin. Bonjour professeur Didier Raoult.
Bonjour.
Première question technique, quelle est la forme de ce livre? Comment a-t-il été construit, conçu?
Si vous voulez, pour remettre les choses en perspective, je connais relativement bien une forme de journalisme, parce qu'il y a bien longtemps j'étais président d'université, j'étais le plus jeune président d'université de ce pays. On se remet en 1994, et il y avait dans le périmètre de mon université une école de journalisme qui était en très mauvais état. La créatrice était partie, le conseil d'administration se passait mal, et donc j'ai dû la restructurer, la faire déménager, la restructurer, et ça m'a donné l'occasion de beaucoup discuter avec les journalistes. Et puis, j'avais une naïveté à l'époque, j'avais le rédacteur en chef local, du journal local, à qui j'ai dit, mais enfin, vous ne faites pas de l'information, vous dites, ce que vous dites n'a pas un sens très réel. Il m'a dit, mais monsieur Raoult, si nous ne vendons pas les journaux, je ne mange plus. Donc ce qui compte, c'est qu'on achète mon journal. Et il m'a dit, d'ailleurs, vous savez, si l'OM gagne, on vend 30% de journaux en plus. Ben, j'ai dit, non, ben, je comprends bien. Puis après, je le revois une fois, puis je lui dis, écoutez, c'est ennuyeux, vous dites une chose, le lendemain, vous dites une autre. Et il me dit, mais monsieur Raoult, enfin, monsieur Raoult, je suis journaliste, c'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est la vérité du jour. Le lendemain est un autre jour.
Oh, dis donc.
Eh ben,
c'était les vérités alternatives avant l'heure et avant les États-Unis.
C'est exactement ça. Et donc, je sais ça, moi, depuis 1994. Et moi, bien sûr, je suis l'inverse. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, et je me rappelle, parce que j'ai mon tempérament, une fois, j'ai discuté, j'étais...
Attendez, je me permets de vous interrompre, parce que ici, on ne ment pas, mais le temps nous est compté, donc je voulais que vous me racontiez comment est fait ce livre. C'est la recension d'entretien que vous avez eu
sur votre site
YouTube.
C'est un verbatim, ça veut dire, c'est mot pour mot, parce que bien entendu, les propos que j'ai sont déformés, vous savez qu'une des grandes spécialités des journalistes, en particulier ceux qui sont malveillants, c'est de mettre un titre qui n'a rien à voir avec ce que vous dites, si vous voulez, pour dire, voilà, monsieur Raoult a dit ça, monsieur Raoult a dit ça, le professeur Raoult a dit ça. La plupart du temps, ce que je dis n'a rien à voir avec ça. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai un contrôle de ma parole, que je fais moi-même ma propre émission, qui a été vue 120 millions de fois, quand même, hein, d'accord, notre chaîne.
Sur votre chaîne YouTube, qui a presque 1 million d'abonnés.
Ouais. Et donc... Dedans, c'est tout ce que j'ai dit est écrit là-dedans. On peut le retrouver, on peut lire plus d'un an après ce que j'ai écrit et voir si ce que je dis est consistant et si je reste dans la même perspective ou si j'ai navigué.
Et c'est même daté. Donc on peut dire, voici ce qu'il a dit à telle date.
Exactement.
Les chapitres sont comme ça recensés avec la date. Alors ça démarre très très fort. L'avant-propos, vous l'avez écrit à part, j'imagine. Mmh. Vous l'avez écrit avant. Ça démarre très très fort. Dès la première page, le deuxième paragraphe. Nous vivons dans une période où l'information a perdu son rôle essentiel théorique, qui est de rapporter des éléments réels et compréhensibles. Mon impression est qu'une partie importante de ce qui s'intitule l'information est en réalité, pour une part, du divertissement et pour une autre part, de la propagande. Selon vous, l'info ne rapporte pas davantage que les éléments réels. Pour reprendre vos termes, pendant la pandémie, les télévisions ont fait du divertissement et de la propagande.
Oui, oui, vraiment.
Expliquez comment vous l'avez vécu.
Ben, si vous voulez, bien entendu, ça nécessite des tours de force de parler pendant 6 heures par jour d'une maladie dont on ne sait rien.
Là, vous parlez des chaînes d'infos continues.
Oui, le champ de l'info continue, c'est un sommet. Vous avez besoin d'occuper le temps sur les plateaux pendant 6 heures.
Ça, on est bien d'accord. Mais qu'ils fassent divertissement, on est bien d'accord. Mais en quoi c'était de la propagande?
Parce que, si vous voulez, ce qui est très très intéressant, c'est de voir... Par exemple, je vais vous donner un exemple de la réaction de la presse au fait que chez quelqu'un qui est très bien, qui est un des sociologues les plus connus, qui s'appelle Mukeli, un prof de sociologie, qui me dit, écoute, est-ce que tu pourrais me prêter un amphithéâtre pour que je puisse faire venir des gens qui ont une pensée qui n'est pas diffusée sur les grands médias, mais qui sont des gens qui sont des scientifiques. Et d'un coup, il y a une espèce de réaction terrible, d'une part, effectivement, des autorités, entre guillemets, d'autre part de la presse, en disant, il y a le congrès des complotistes. Et donc, si vous voulez, de ne pas obéir à la propagande devient faire partie d'un complot. Mais ce qui est l'inverse de ce que nous faisons, de ce que nous pensons comme scientifiques. Au contraire, la contradiction, c'est la base de la science.
Bien sûr.
Et donc, quand les gens disent « mais vous ne pouvez pas être tous d'accord avec les scientifiques », c'est une méconnaissance de la science qui est inouïe. C'est la preuve qu'on n'apprend rien à l'école. Hein.
Toujours dès le début du livre, c'est l'introduction écrite par vous. La presse traditionnelle, écrivez-vous, face aux sources multiples d'informations, en particulier sur les réseaux sociaux, a installé un certain nombre de domaines, notamment dans l'agence France Presse, que la police de l'information, aussi appelée fact-check. Cette police de l'information est bien entendu biaisée, comme toutes les polices de mœurs. Et là, je me dis quand même, ces accusations à l'encontre de l'AFP sont très graves. Vous qualifiez le fact-checking, c'est-à-dire le fait de vérifier une assertion ou un chiffre donné par tel ou tel, voir si c'est vrai ou si c'est faux, comme une police de l'information. Expliquez-nous.
Ah, ben c'est une police de l'information comme l'Inquisition était une police de l'information, c'est la même. C'est-à-dire...
Non, l'Inquisition vous torturait jusqu'à ce qu'on vous fasse avouer ce que vous vouliez...
Non, c'est un...
On voulait entendre.
Non, ça aussi c'est de la propagande, c'est un fantasme. C'est pas vrai, si vous regardez le nombre de morts de l'Inquisition et celle des sorcières brûlées, en particulier... en Angleterre ou aux États-Unis, vous verrez qu'on ne peut pas comparer. C'était, au contraire, il y avait une procédure avec l'Inquisition qui était...
J'ai ouvert une mauvaise porte. Revenons à l'AFP.
Faites attention.
Et à la police déclarée par vous de l'information. Vous avez raison.
Il y a une police de l'information qui a atteint les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous voyez, c'est une bonne nouvelle. Il y a Elon Musk qui compte desserrer cette politique de l'information. Mais moi, je vous assure que sur une partie des réseaux sociaux, sur l'information véhiculée, il y a des mots qui sont devenus des mots tabous dans lesquels vous avez l'impression que quand vous parliez de l'hydroxychloroquine, c'était aussi grave que la négation de la Shoah. Hein.
Donc, une chaîne chinoise que j'ai regardée, qui est la chaîne chinoise qui est financée par le Parti communiste, vous dites que quand on prononce certains mots, on est bloqué. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez parler librement sur YouTube et vous pouvez dire ce que vous voulez. Votre chaîne n'a pas été bloquée.
Moi, oui. Parce que, si vous voulez, ça, c'est le problème du capitalisme, c'est que ça rapporte tellement d'argent. Moi, je ne mets pas de publicité, je suis contre. Ça ne me coûte rien, je ne gagne pas ma vie comme ça. Je suis d'ailleurs très choqué, j'en profite pour vous dire, qu'on mette des cookies sur les sites gouvernementaux, c'est honteux. Je trouve que les sites gouvernementaux, vous renseignez pour les impôts ou pour votre santé, on vous demande d'accepter les cookies pour vendre des cochonneries. Je suis scandalisé. Donc, je ne fais pas d'argent. Je pourrais en gagner d'argent. Je ne sais pas combien, on m'a expliqué combien, pour 1000 vues. Et donc, je pense qu'on...
$1 par 1000 vues, en gros.
Voilà. Et donc, comme nous, on en a fait 120 millions, vous voyez que j'aurais pu gagner d'argent.
Ça fait 120 000 dollars.
Ouais. Donc, ça veut dire que, simplement, on rapporte trop... actuellement, on a une lisibilité, on rapporte trop de choses au système. Mais, par exemple, si la première intervention que j'ai faite a été censurée par des fact-checkers du monde, si vous voulez...
Pas par YouTube, ce n'est pas la même chose.
Non.
On parle de deux sujets différents.
C'était sur... Non, par les fact-checkers du monde. Et si on a enlevé ma vidéo de YouTube, le ministère de la Santé a dit que c'était une fake news, les réseaux sociaux. Donc, on est intervenu pour leur demander de nous expliquer pourquoi c'est fake news et ça a été remis. Donc, il y a bien des gens qui font la police de l'information. Je vous donne un autre exemple. Idriss Aberkane, qui est un garçon extrêmement intelligent, a fait une présentation sur YouTube pour dire, écoutez, regardez, je n'étais pas au courant, enfin, je l'ai vu, je trouvais que c'était gentil d'ailleurs, il dit, regardez les points sur lesquels on attaque Didier Raoult et qui sont faux. Mm-hmm. Ben, écoutez, elle a duré 24 heures et puis ça a été enlevé, ça a été censuré par YouTube quand même. Hein.
Beaucoup d'autres choses dans le livre de Guy Raoult, ça s'appelle Carnet de guerre. Est-il en guerre contre les médias? Pas tout à fait, il est donc Culture Média. On marque une pause, on se retrouve à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie du professeur Didier Raoult, Carnet de guerre Covid-19, c'est le volume 2. C'est une sorte de mémoire, c'est plutôt les verbatims que vous enregistrez tous les mardis, si j'ai bien noté, dans vos bureaux à Marseille. Et ensuite, on peut relire et dire exactement ce que vous avez dit. Il y a quelque chose qui vous exaspère à la télévision, et je suis un peu obligé de vous donner raison, c'est qu'il y a des spécialistes, parfois ils sont bac plus 10, qui viennent pérorer sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, je vous cite. On y voit des gens qui viennent donner des opinions sur le génome, alors qu'ils ne savent même pas ce qu'est un génome. Ça m'énerve un peu. Vous avez des exemples de choses que vous avez entendu dire de la part de certains émetteurs?
Ah oui, oui, oui. Écoutez, c'est très intéressant. Il y a eu deux phénomènes très, très, très intéressants qui nous ont fait manquer une partie de l'histoire. Un, c'est que, bien sûr, les virus ARN ont fait partie du coronavirus, mais qu'il y a un peu des systèmes de réparation, sont des virus qui changent tout le temps. Un, ils changent tout le temps, et deuxièmement, ils se mélangent avec d'autres virus pour former de nouveaux virus, qu'on appelle l'hybridation. Et donc, c'est un phénomène qui est un phénomène naturel. Donc, quand il s'est passé le premier épisode de coronavirus, celui avec la souche qui venait de Chine, mais qui a muté apparemment en Italie, a donné une courbe qui est celle qu'on a l'habitude d'avoir avec ces épidémies, qui est une courbe en cloche, si vous voulez, puis qui s'est arrêtée. Très bien, d'ailleurs, on lève à ce moment-là les mesures de restriction. Et puis, au milieu du mois de juillet, apparaît de nouveaux cas, et puis ça monte, monte, monte.
Les variants, on l'appelait ça.
C'est moi qui ai appelé ça les variants.
C'est vrai ?
Bien sûr, personne ne sait ça. Les gens m'ont dit, moi, factuellement, moi, le ministre de la Santé l'a dit, et Bruno Lina, qui est le spécialiste de la virologie du Conseil scientifique, ont dit, il n'y a pas de mutants, il n'y a pas de variants dans ce virus, quand même. Tout le monde oublie ça, personne n'a de mémoire. Le fait même de passer ça, nous on a publié notre premier papier sur un variant en septembre.
Pardon, je vous interromps parce que là vous me parlez de médecine, moi je suis en train de parler de médias. Vous dites être exaspéré de voir des gens dans les médias qui pérorent sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas, et je vous demandais si vous aviez des exemples précis. Vous racontez dans le livre, vous rapportez un souvenir, vous écrivez, je me souviens d'un journaliste qui essayait de me donner une leçon sur la poliomyélite. Il ne savait pas que la poliomyélite c'est en réalité trois virus différents, des variants différents.
Oui, 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 je me souviens, c'est au moment où j'avais fait un livre sur les vaccins. Là aussi, mon objectif, c'est de dire on a le droit de dire des choses intelligentes, même si le public est plus restreint que quand on dit des bêtises, parce que quand on dit des bêtises, il y a plus de gens qui comprennent. Et puis, il y a plus de gens pour le faire, donc la place est prise, et donc j'essaie de trouver une niche écologique, vous voyez, dans laquelle on ne soit pas trop nombreux. La poliomyélite, c'est un des problèmes de maladies infectieuses et de vaccination les plus complexes au monde. Il y a effectivement trois virus de la poliomyélite. Il va s'en recombiner. Nous, par exemple, on a découvert un recombinant entre la poliomyélite et un autre virus qui sévit en Afrique et qui donne les mêmes manifestations. Mais peu importe. Pour lutter contre ce virus, à l'époque où la poliomyélite était un drame, la manière la plus simple a été d'avoir des virus qu'on donnait, des virus vivants qu'on donnait par la bouche. Malheureusement, ça a été fait comme on le faisait à l'époque, et il y a des virus qui se retournent. C'est-à-dire que des vaccins qui donnent la poliomyélite.
Pardon, professeur, ma question c'était, est-ce qu'il y a un journaliste qui vous a fait la morale sur ce vaccin, sujet? C'est ça que je voulais que vous me racontiez.
Ah oui, 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 non, mais il m'a expliqué la poliomyélite, si vous voulez, j'en suis resté sur le flanc. Il se trouve qu'actuellement, depuis 3 ans...
Mais c'était quel journaliste et dans quelle émission?
C'est Patrick Cohen, dans cette... Depuis, il me déteste, d'ailleurs.
Dans C'est à vous. Vous ne le citez pas dans le livre, pour quelle raison?
Non, mais parce que je m'en fiche, honnêtement. Vous, c'est plus vos histoires journalistes, ça vous intéresse, moi je m'en fous. Ouais. Moi c'est plus pour donner un exemple, vous avez un type qui est là pour faire le clown, hein, il joue, il y a le bon et le méchant, lui c'est le méchant, moi je m'en fous complètement, je ne vais plus dans cette émission parce que je pense que c'est pas raisonnable. Mais en revanche, ce qui est dommage, c'est au niveau de l'information, vous voyez la différence entre...
Attendez, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas un bon et un méchant.
Si lui, dedans, quand moi j'y étais, j'y suis allé 2 fois, lui, il est là pour intervenir, pour faire le méchant.
Qu'il a dit ne vous a pas plu. Mais son registre, ce n'est pas la méchanceté, son registre, c'est l'information.
Non, ça, ce n'est pas de l'information. C'est de la propagande, encore une fois. Il se trouve qu'à l'époque, moi, ce qui était déconnecté de mon livre, Mme Buzyn avait décidé qu'il fallait que le vaccin soit obligatoire.
C'était la ministre de la Santé à l'époque.
Ouais. Et donc, lui disait, mais vous ne pouvez pas... D'abord, il m'a mis dans une situation difficile parce qu'il me disait, regardez, l'Inserm, qui était son mari, dit qu'elle a raison. Je n'ai pas osé dire, normalement, on ne devrait pas faire ça. Marie ne devrait pas dire... D'ailleurs, à la fin, il a fallu que ça s'arrête parce qu'on ne pouvait pas être directeur de l'Inserm. Marie, de la ministre de la Santé, c'est des choses qui ne se font pas dans un monde bien fait. Et ça finit par s'arrêter. Et ensuite, il me dit une énormité parce que il me dit à propos du vaccin contre la polio quand même, hein. Bon, en réalité, depuis 3 ans dans le monde, il y a plus de poliomyélite vaccinale, il y a une épidémie de poliomyélite vaccinale dans le monde actuellement, et il n'y a plus de polio naturel. Ça, c'est de l'information. Voilà.
Alors moi, je reviens à la télévision qui est notre sujet. Vous êtes devenu une vedette, une star mondiale, au point que vous avez pu imposer des conditions à la télé. J'avais encore jamais vu ça. Exemple, vous ne vous dépassiez plus, vous étiez dans votre bureau à Marseille et les journalistes venaient vous interviewer. Comment vous avez réussi à obtenir ça ?
Non, mais j'ai rien obtenu. Si vous voulez, moi, je suis pas votre serviteur. Donc, je fais un peu ce que je veux, ce qui est ma nature. Alors, donc, quand les gens voulaient m'interviewer, ce que j'ai fait avec parcimonie, relativement peu, je leur disais, mais écoutez, ça va, vous venez, vous vous installez, ils étaient en panique, je ne sais pas pourquoi ils ont besoin de 72 caméras pour faire un truc, alors que nous, avec une caméra de poche, on fait nos émissions qui sont vues parfois jusqu'à un million de personnes. Donc, voilà, moi je ne tiens pas non plus spécifiquement à venir à Paris pour venir exposer des choses que je peux exposer dans mon bureau tranquillement avec des gens en plus de ça qui me posent des questions polies. Donc je ne vois pas pourquoi j'aurais fait des efforts particuliers.
Comment vous avez vécu cette médiatisation planétaire, le fait d'être cité par le président Macron, ça c'est naturel vu vos états de service en France, mais par le président Donald Trump, par le président Bolsonaro, est-ce que ça peut monter à la tête ? Qu'est-ce que ça a changé pour vous ?
Bon, au début, j'étais très ennuyé, si vous voulez, parce que c'est comme toute situation nouvelle, si vous voulez, il y a des réflexes nouveaux à prendre. Donc j'étais très embêté que les gens qui prennent un selfie, qui me disaient bonjour, qui me reconnaissaient, etc., ce qui n'était pas mon habitude, si vous voulez. Et puis je me suis accoutumé à ça, parce que les gens sont plutôt gentils avec moi. Pour
dire, alors, les gens sont gentils, pas tout à fait. Page 352, vous dites ne pas comprendre la haine à votre endroit. Je vous lis. Quant à la haine que j'ai provoquée, comment peut-il se développer une telle haine de la part de gens que je ne connais pas ? Ce sont des gangsters. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les paye ? Qu'est-ce que c'est que cette folie pendant un an et demi ? Est-ce que ce sont des gens oisifs qui n'ont rien d'autre à faire ? Qu'est-ce que c'est que ce gang ? J'espère que la justice va s'en emparer, faire une enquête approfondie sur cette organisation, cette source, ce harcèlement en meute. Vous avez aussi vécu des choses douloureuses.
Si vous voulez, y a un groupe de gens qui sont sur des réseaux sociaux avec des vrais appels au meurtre, avec des petits complots de gens qui disent « Tiens, toi, tu devrais faire ci, lui, tu vas faire ça, lui a dit ci, lui a fait ça », si vous voulez, qui remontent parfois avec des liens un peu étranges, si vous voulez. Donc, j'ai porté plainte, hein, bien sûr.
Il y a des fans qui se revendiquent de vous qui font la même chose à d'autres gens.
Oui, mais si vous voulez, je suis moins sensible à la haine qu'on porte aux autres gens que la haine qu'on me porte à moi, parce que je suis un humain normal, vous voyez, je ne suis pas un robot. Donc je trouve désagréable. Et après, je me pose toujours la question de la source. Vous savez, effectivement, la première fois que j'ai passé l'oxychloroquine, on le sait, puis cette fois ça a été jugé, évalué, etc. Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné à minuit chez moi. Je ne sais pas comment il avait mon portable, si vous voulez, pour me menacer de mort, quand même. Donc, si vous voulez, il y a quand même des gens qui sont spéciaux. Hein.
Et alors, votre réaction est très très forte, et parfois on frise le point Godwin. Justement, vous parlez de l'hydroxychloroquine, vous dites « On recommence comme une farce qu'on a vue en 1940 », 3 pages plus loin. « Il y a actuellement des journaux, des journalistes qui ressemblent beaucoup à ce qui s'écrivait à la fin de la guerre dans « Je suis partout ». Je dis ça pour les plus jeunes, « Je suis partout ». C'est un journal ouvertement collaborationniste, pro-nazi. Vous assumez le parallèle ?
Ah oui. Oui, j'ai tout vu. J'ai vu la délation. J'ai vu, regardez, là, on porte plainte hein, contre Mediapart, qui a sorti une fausse histoire de d'essai contre la tuberculose qui n'existe pas, en utilisant un dossier qui a été volé, un dossier de malade qui n'a rien demandé, qui s'est retrouvé sur Mediapart, avec le directeur général qui avait été envoyé en partie pour me nuire, je n'arrive pas à comprendre peut être d'autre.
Je vais citer, je ne voulais pas me lancer là-dedans parce que c'est trop complexe, ça ne peut pas être réglé en quelques minutes, mais c'est un rapport du 27 avril de l'Agence nationale de la sécurité du médicament, rapporté notamment par l'Express, rapport qui fait 293 pages. Tout ne peut pas être totalement faux dans ce rapport aussi.
Ah non, mais dans ce rapport, ce qui est vrai dans ce rapport, c'est qu'ils n'ont trouvé aucun essai contre la tuberculose, c'est-à-dire tout ce qu'a dit Mediapart, la raison pour laquelle les deux ministres ont envoyé un courrier en disant que c'était vrai, qu'il fallait enquêter, qu'il y avait une enquête à l'intérieur de l'assistance publique qui l'avait confirmé, tout ça est entièrement faux. Après, c'est trop long de vous expliquer ce qu'ils ont fini par trouver, ils ont fini par trouver deux choses que j'attends avec gourmandise de voir ce qu'ils vont faire, parce que déjà, pour la tuberculose, il a dit, on signale au procureur, le procureur ne m'a jamais rien demandé, parce qu'au bout d'une semaine, on savait que c'était entièrement faux, d'accord ? Donc il y a des mœurs, il y a des gens qui sont absolument prêts à tout croire, pour montrer que je suis le diable, quoi. C'est intéressant. Oui, mais moi, mon métier, c'est de soigner les gens. Et vous savez, je vais vous dire, il y a deux choses dans l'éthique qui sont très importantes. La première, il faut se méfier, et c'est ce que j'ai essayé de dire, et c'est une des choses qui passe le plus mal, il faut se méfier des gens qui sont payés pour faire de la propagande. Moi, je ne suis pas payé par l'industrie pharmaceutique. Je vous le dis, voilà, c'est un conflit d'intérêts. Je monte un conseil scientifique pour une boîte qui s'appelle Eurofin. J'ai travaillé pour Hitachi.
Les journalistes non plus, ils racontent ce qu'ils ont vu. Dans la grande majorité des cas.
C'est ce qui est notre cas ici. Pour l'instant, on n'a pas... mon ami Dominique Maranenki, à l'époque de Xavier Bertrand, a rendu obligatoire la déclaration par l'industrie pharmaceutique des financements pour les médecins seulement. D'accord ? Il ne dit pas pour le reste. Mais la presse est incroyablement payée par l'industrie pharmaceutique. Vous le savez quand même.
Je le sais, j'en ai jamais eu la preuve, et comme je travaille pas dans ce domaine, et j'avance jamais rien sans preuve, c'est un autre sujet.
Mais moi, j'en ai la preuve. Voilà. Moi, j'en ai la preuve, parce qu'ils sont obligés de le déclarer.
Didier Raoult, je suis obligé de dire, on doit couper maintenant, et ça nous donne l'occasion d'un second sujet et d'une seconde invitation. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. Dans un instant, on va parler d'Europe, c'est France 3 qui lance, qui a une émission sur l'Europe. Pourquoi on parle d'Europe, soi-disant, ça intéresse personne, mais si, ça intéresse des gens. À tout de suite.
L'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios.